Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je voudrais rappeler une ou deux choses sur ce qu'on appelle le triomphe de l'orthodoxie et sur la cesse de carême. Vous avez bien vu que l'Évangile n'a aucun rapport avec le carême. Ça, c'est une des déficiences du dictionnaire byzantin. Ça n'a absolument aucun rapport. Et on ne lit jamais, hélas, la tentation du Christ au désert. On ne le lit qu'en Occident, le dimanche. Par contre, c'est quelque chose qui brûle. Par contre, l'épître était liée au martyr pour la foi orthodoxe. Alors, ce triomphe de la foi orthodoxe sur les hérésies, c'est tout à fait circonstanciel. C'était la suite du 7e concile œcuménique. Vous savez qu'il était en 787. Mais comme il arrive souvent, c'était l'hérésie iconoclaste, probablement venait du monde islamique, mais que hélas, plusieurs empereurs ont adopté, et ça a donné lieu à une persécution terrible. Ça a duré plus d'un siècle, la persécution iconoclaste. Et comme il arrive souvent, dans le cas de grandes hérésies, le concile œcuménique n'a rien changé momentanément. La persécution a duré jusqu'en 843. Ce n'est qu'à la suite de la mort providentielle de l'empereur persécuteur Michel III que l'impératrice régente Théodora a permis au patriarche Méthode de restaurer solennellement les icônes. Et ce dimanche était le premier dimanche de carême, tout simplement. C'était le 11 mars 843. Et il y a eu une grande procession du palais impérial jusqu'à Sainte-Sophie avec toutes les icônes, celles qui n'ont pas été détruites. C'était la plus grande destruction d'icônes de toute l'histoire de l'Église. On a très très peu d'icônes d'avant le 8e siècle, parce que la plupart ont été détruites. Et donc, on en a profité, le patriarche de Constantinople en a profité à ce moment-là, pour proclamer à nouveau les 7 conseils œcuméniques. Vous voyez ? Donc, on a rappelé tout le contenu du 7 conseils œcuméniques. Et on en a fait le dimanche du triomphe de la foi orthodoxe sur toutes les hérésies. C'est de là que ça vient, cette fête. Et donc, souvent, dans les églises orthodoxes, vous verrez des processions et des icônes. Souvent, ça se résume à cela, d'ailleurs. Et aussi, parfois, on lit le tomos de l'orthodoxie, c'est-à-dire le recueil de synthèse. Alors, avec la bénédiction de Mgr Joseph, nous ferons le rite du triomphe à partir d'un tomos qui est pas trop lourd, qui ne dure pas très 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 longtemps. Donc ça, c'est important de se souvenir de cela, de ce que ça représente. Et puis, dimanche des Réunions, je vous avais dit, on n'a pas le temps de parler de la cesse du carême, et je voudrais essayer de vous en dire un petit mot. La cesse du carême, alors la cesse en grec, ça veut dire s'exercer à. C'est pas seulement le jeûne ou l'abstinence, c'est tout un ensemble de comportements spirituels qu'on peut mettre sous le nom d'ascèse, s'exercer à. Et en principe, ce carême est une préparation à Pâques, qui est la plus grande fête de l'année. Alors bien sûr, on doit s'exercer à être chrétien tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus propices, et des moments où le combat spirituel est plus profond, plus intense. Ça ne peut pas être toujours très intense, sinon ça devient culturel, ce n'est plus une ascèse. Il y a des moments dans la vie chrétienne où on fait plus d'efforts, des moments de relâche. Parce que sinon, si c'est trop tendu, on ne fait plus rien. Donc déjà, il faut resituer cette ascèse dans l'ensemble du combat spirituel des chrétiens et surtout dans le cadre de Pâques. Si on oublie que le but, c'est de se préparer à Pâques, on oublie l'essentiel. Alors, c'est aussi une préparation intérieure à notre propre résurrection. Parce qu'un jour, nous connaîtrons la mort, et un jour, nous serons ressuscités. Oui, tous ces carêmes, toutes ces ascèses sont aussi une préparation à notre propre résurrection, à notre combat spirituel céleste. Nous pourrions dire du carême, il est un chemin dans lequel on s'efforce pendant ce grand moment de retrouver l'obéissance intérieure à Dieu. Le péché de nos premiers pères, c'était une désobéissance. Mais ce n'est pas en soi l'aspect le plus important. Je vous ai souvent dit que l'aspect le plus important, c'est une déficience d'amour. Si on désobéit à quelqu'un, c'est qu'on n'a pas confiance en cette personne. Et qu'on n'a pas non plus envie de lui être agréable. Donc c'est une désobéissance, c'est surtout une déficience d'amour. Et pendant le carême, on essaie de retrouver une juste hiérarchie des valeurs. Le plus grand ascèse du carême est une ascèse intérieure. Qu'est-ce qui en moi est agréable à Dieu? Et qu'est-ce qui n'est pas agréable à Dieu? Et quelle est ma hiérarchie des valeurs? Est-ce que c'est d'être le meilleur, de triompher des autres, de gagner beaucoup d'argent, ou autre chose? Est-ce que c'est d'accueillir Dieu dans mon cœur? Est-ce que c'est de voir Dieu sur le visage des autres, c'est essayer de retrouver une véritable hiérarchie des valeurs. Alors, là-dedans, c'était un peu l'aspect général. Je vous ai dit plusieurs fois dans l'année liturgique, la plus grande de toutes les ascèses, c'est de mourir à soi-même. C'est une ascèse intérieure. C'est la plus grande de toutes les, c'est la plus difficile aussi. Alors, les autres ascèses sont utiles et nous aident dans cela. Mais la plus grande est intérieure et ne se voit pas. Les vrais ascètes, ça ne se voit pas. C'est le Christ qui nous donne des consignes très précises. Ne faites pas comme ceux qui ont une mine défaite. Tout le monde va voir qu'ils jeûnent, que c'est des grands spirituels. Ils sont vêtus pauvres en or, ils ont des cheveux sales. Il dit, pas de ça. C'est absolument bidon. Quand tu jeûnes, habille-toi bien, parfume-toi. Que ton Père qui le voit. Il n'y a pas longtemps, on a vu ça. Ce n'est que pour ton Père Céleste. La transformation intérieure, c'est que pour le Père Céleste. Ce n'est pas pour la galerie, ce n'est pas pour les autres. Et on ne le fait pas pour soi-même d'abord. On le fait par amour de Dieu, parce qu'on aime Dieu. Alors déjà, il ne faut pas oublier cet aspect des choses, que c'est vrai qu'on voit souvent des gens qui aiment tellement montrer qu'ils jeûnent, qu'ils sont des grands ascètes, que c'est extrêmement désagréable, et ils ne se font pas de bien à eux-mêmes. Alors, il faut quand même que je vous donne quelques indications parce qu'il y a des personnes nouvelles parmi nous qui ne connaissent pas les usages de l'Église orthodoxe. Alors, je vais vous donner quelques éléments de réflexion qui ne sont pas des règles, mais c'est pour alimenter votre propre expérience du carême. Fondamentalement, l'abstinence de nourriture complète ou incomplète, elle ne peut jamais être complète, sinon on mourrait. L'abstinence de nourriture a pour but de compenser, de rattraper notre chute dans le paradis. Vous avez vu, l'homme a pris un aliment dont Dieu lui avait dit « Je te demande de t'en abstenir ». Nous n'avons pas été capables de faire cette abstinence. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il faut bien se souvenir qu'il ne s'agissait pas d'une nourriture physique. C'était une nourriture spirituelle. Il s'agissait des antinomies de la création. Le grand péché de l'homme, c'est d'avoir voulu connaître la créature avant le Créateur et sans lui. Au fond, de jouer au petit Dieu. Mais il ne pouvait pas, l'homme, parce que l'homme est une créature parmi les créatures. L'homme est poussière parmi la poussière. Vous avez vu ce qu'on a fait tout à l'heure? Tu es poussière, tu retourneras en poussière. C'était une extrême imprudence de jeter son regard vers le non-être. C'était être au bord de l'abîme. Ça, c'est un péché. Et Dieu a dit, tu vas mourir parce que tu t'éloignes de moi, l'être. C'est pour ça que nous connaissons la mort. Dieu, pédagogiquement, nous dit, il faut que tu assumes ça. Tu as voulu connaître le non-être, tu vas mourir. Alors, on ne meurt pas complètement. Tu ne supprimes pas sa création. Mais c'était ça le péché de l'homme. C'est pas de la nourriture physique. C'était une nourriture spirituelle. C'est ça notre péché. L'abstinence nous rappelle qu'on n'a pas été capable de cette abstinence. Donc toutes les formes d'abstinence ont pour but pédagogiquement de nous rappeler qu'étant des grands garçons, étant l'image de Dieu, on est capable de s'abstenir de certaines choses, à certains moments. Parce que nous ne sommes pas, le mot m'échappe, on n'est pas prisonnier du contexte. Satan n'arrête pas de dire à Dieu, regarde, c'est de la crotte, l'homme.
T'as vu, la faim, il mange, il comme une bête. Et Dieu nous dit, vous êtes mon image, vous êtes capable de ne pas faire. Résistez. Une des plus grandes richesses du jeûne, c'est de dépister la présence des démons. C'est d'acquérir le discernement spirituel. Vous avez vu que, et là, nous ne le lisons pas dans le dictionnaire byzantin, aussitôt après le baptême du Seigneur par Jean, le Saint-Esprit le pousse au désert. C'est l'Esprit Saint qui conduit l'homme Jésus. Il le conduit au désert, il jeûne 40 jours et 40 nuits. Il fait le grand jeûne total de 40 jours. Et pourquoi le Saint-Esprit conduit le Seigneur Jésus au désert? Pour affronter les démons. Pour ça, c'est pour un combat spirituel. Le démon lui dit, mange, même que si tu t'en fiches, mange. Regarde les pierres, tu fais du pain, t'es un grand magicien. Mange. Il s'en fiche, le Seigneur. Vous avez vu la résistance du Christ. Il résiste pas à pas au démon. Le démon cite la Bible, le Christ cite aussi la Bible. Le Christ va vaincre Satan dans l'humanité, dans la faiblesse de sa nature humaine. Satan va tromper l'homme dans le jardin des délices. C'est un homme qui va le tromper. Le Christ ne mangera pas. Il ne transformera pas les pierres en pain. Et il va dire, ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Mon Père m'a dit, c'est ma nourriture. Il nous apprend à retrouver la hiérarchie des valeurs. C'est ça qui est fort. Ça, c'est la plus grande richesse de l'ascèse et du jeûne. Il ne faut pas l'oublier. C'est surtout pour le combat spirituel. C'est par le jeûne qu'on arrive à dépister la présence des démons et qu'on arrive à leur résister, dire non. Alors le jeûne existait chez les Juifs, comme dans toutes les religions. Le modèle, c'est Jean-Baptiste. Mais le Christ nous a montré ce grand jeûne qu'il accomplit pour nous, pour toute l'humanité. C'est le modèle de l'ascèse et du combat spirituel. Historiquement, il y a eu dans l'Église une grande évolution. Dans l'Église très ancienne, d'abord on ne jeûnait pas avant la communion. Pendant un siècle et demi, pour respecter la scène, on communiait à la fin d'un repas. Ça montre que ces règles ne sont pas absolues. On se serait cru indigne si on n'avait pas fait à la fin de la page, on a fait comme le Seigneur, tout simplement. Et pendant des siècles, pendant très longtemps, pendant toute la période de persécution, souvent on n'a jeûné que le vendredi saint. On n'avait pas jeûné plus. Puis petit à petit, on a élargi les périodes de jeûne et on a fini par obtenir le carême un peu actuel vers le 6e siècle. Mais ça a mis énormément de temps. Il y a eu une influence monastique très importante. Les règles ont toujours été différentes d'une église à l'autre. Et il ne faut jamais faire un absolu des différents usages. Il n'y a pas d'usage qui soit absolu. Moi, je vais vous indiquer quels sont les usages en Orient et en Occident. Et il vous appartiendra de déterminer ce qui est bon pour votre vie spirituelle. La seule chose qui soit universelle, c'était l'abstinence de viande. C'est parce que ça a un aspect festif. La plupart du temps, les jeux ont un caractère symbolique. C'est en fonction de Pâques, tout simplement parce que les viandes, le vin, c'est un aspect festif. C'est pour ça qu'on s'est privé de cette nourriture. Ça, c'est universel. Et pour le reste, il y a eu deux grands usages. L'usage oriental, c'était l'abstinence de viande, de laitage, d'œufs et même d'huile et de vin, sauf le dimanche. C'était un carême très rigoureux pour l'alimentaire. L'usage grec étant beaucoup plus rigoureux que l'usage russe. Mais il faut dire que ça correspond presque au mode de vie méditerranéen. On se nourrit de légumes et de fruits. C'est ce que dans les pays du Nord, là, il fait très froid, c'est très difficile. Alors, le carême chez les églises slaves est moins sévère que dans la filiation grecque. Et donc, le dimanche, il est autorisé de manger du poisson, du vin, de l'huile, etc. L'usage occidental est différent. L'essentiel en Occident, c'était l'abstinence de viande. On a toujours mangé du poisson pendant le carême et rien n'a jamais été précisé pour les laitains. Je n'ai pas connaissance de ces choses-là. On n'a jamais connu l'abstinence d'huile. Alors, vous voyez que ces choses ont un caractère évidemment symbolique. Théoriquement, on se prive de ce qu'on va consommer à Pâques. Mais, comme dans tous les systèmes, il y a des incohérences. Rien n'est jamais parfait. Comme il y a tellement d'interdits alimentaires dans le carême oriental, on a droit à toutes les sucreries. Ah oui, parce qu'on ne peut pas se priver de tout. Donc, c'est bon, rien n'est absolu. Par ailleurs, quand on veut faire la cuisine de cette façon-là, on y passe 4 fois plus de temps, parce que c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses interdites. Alors, ça, ce n'est pas non plus une très bonne chose, parce qu'on finit par passer tellement de temps à s'occuper de choses alimentaires que ça n'est plus tellement dans l'esprit du carême. Alors, on peut dire aussi qu'en Orient, il y a une culture du carême, pas en Occident. Ça m'est arrivé plusieurs fois de manger dans des maisons épiscopales ou dans des monastères en carême. C'était tout à fait comestible. C'était végétal, mais c'était tout à fait comestible. J'ai vu que parfois les Français qui sont nouvellement orthodoxes, ils se croient obligés de manger des choses très mauvaises. C'est très occidental. Enfin, la culture du carême. Mais ce n'est pas ça le carême. C'est pas masochiste, si vous voulez. Il faut voir, faut garder l'esprit en tête. En ce qui nous concerne ici, moi je ne vous impose pas telle ou telle règle. Je considère qu'il est légitime que les gens qui viennent d'Orient veulent suivre les usages de l'Orient, je trouve que c'est bien. Les Occidentaux ne sont pas tenus de suivre les usages de l'Orient. Choisissez la forme que vous jugez bonne pour votre propre vie spirituelle. Mais il faut veiller à 2 choses. C'est l'esprit qui est plus important que la forme, c'est l'intention profonde. Donc, quand je veux faire tel ou tel effort extérieur, je dois me demander quel est le but spirituel. Et ce que je ne fais pas au plan alimentaire, il faut que je m'alimente autrement, au plan spirituel. Donc, pour garder l'esprit, et l'autre chose, c'est se respecter mutuellement, ne pas choquer ses frères. Saint Paul, il en parle assez longuement, on l'a lu il n'y a pas très longtemps, il dit... Fais attention à ne pas être une cause de scandale pour ton frère. S'il mange ceci ou s'il ne mange pas cela, respecte-le. Alors, on va faire pareil entre nous. C'est essayer de nous respecter mutuellement. Ne pas faire un absolu des usages. Par contre, on peut faire un absolu de l'esprit des choses. C'est-à-dire, retrouver la vraie hiérarchie des valeurs. Et être agréable à Dieu, et à lui soit la gloire pour les siècles des siècles.